Louons Dieu. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Permets que nous sentions aujourd'hui ta présence dans l'assemblée que nous formons, et que nous la ressentions chacun au plus profond de notre existence. Notre âme t'attend avec confiance. Tu es notre secours et notre bouclier. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée, bonne nouvelle de ta grâce, de ton amour, de ta lumière, que tu offres gratuitement et sans condition à tout être. Et je vous propose de vous lever pour chanter le psaume numéro 67, les strophes 1 et 2. Écoutons comment Dieu veut être servi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Et nous restons assis pour chanter le spontané, deuxième spontané de la page 1, ici en bas. Regard qui a évité celui de cette jeune femme au feu rouge, son enfant dans les bras. Pardon. Pour nos mains qui restent fermées à la douleur de ce voisin malade, pardon. Pour notre silence quand il faudrait parler, pour notre parole blessante quand il faudrait se taire, pardon. Seigneur, pardonne. Notre maladresse devant la souffrance, notre indifférence devant l'impardonnable. Seigneur, aide-nous à entendre, à écouter, à voir, à réagir lorsque le malheur frappe à notre porte ou lorsque le plus petit de nos prochains nous tend une main. Seigneur, aide-nous à secouer notre quotidien, à relativiser nos préoccupations personnelles qui prennent trop de place dans nos têtes, pour faire entrer l'éclat de ta lumière et le souffle de ta présence. Amen. Et nous nous levons pour l'annonce de la grâce en lisant tout d'abord dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Et voici, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans l'évangile de Matthieu, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et je vous propose de prendre le psaume numéro 138, les strophes 1 et 3. De cette maison, de ce pays, de la terre immense et douloureuse des hommes, ô Dieu, nous nous tournons vers toi. À travers toi, nous regardons le visage de Jésus. Nous reconnaissons dans cet homme ta présence, dans cet humble la trace de ta venue, dans ce serviteur la force de ta bonté, dans ce condamné ta solidarité, dans ce ressuscité, ta manière d'ouvrir les routes. Ouvre-nous à ta parole. Amen. Et je vous lirai ce matin deux textes. Tout d'abord, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 19 à 22. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à son enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Et puis dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 31, sur lesquels portera la prédication. C'est le texte bien connu des pèlerins d'Emmaüs et il se trouve juste avant celui sur lequel a prêché Dominique il y a 15 jours. Donc vous allez reconnaître un petit peu la liaison entre le texte. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était avec eux, à table, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Amen. Que s'est-il passé sur le chemin d'Emmaüs, deux jours après la mort de Jésus ? Que s'est-il passé entre ces deux hommes, ou plutôt entre ces trois hommes, pendant cette marche et ce repas pris en commun dans la foulée ? Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré Jésus-Christ ? Était-ce lui en personne ? Était-ce son esprit ? Était-ce, pourquoi pas, une hallucination post-traumatique ? Ce texte sur les pèlerins d'Emmaüs, c'est l'un des récits évangéliques d'apparition de Jésus après résurrection, probablement le plus connu et qui a donné lieu à de nombreuses illustrations en peinture. Je pense par exemple aux deux versions du Caravage et aux deux versions de Rembrandt. Je vous invite à aller au musée Jacquemart-André voir celui de Rembrandt qui m'a particulièrement inspirée pour cette prédication d'aujourd'hui. C'est un magnifique récit mettant en scène deux disciples de Jésus que nous ne connaissons pas, qui doivent appartenir au second cercle autour des principaux disciples, Cléopas et un autre non nommé. Chaque évangile a son récit d'apparition du ressuscité, un peu différent, avec des apparitions diverses dans les jours qui suivent la crucifixion de Jésus. Et ce qui est très étonnant, c'est que, alors même que les quatre évangiles sont tout à fait d'accord sur les événements qui ont précédé la résurrection, ils divergent à ce moment de l'histoire en faisant apparaître Jésus successivement devant des personnes et des lieux très différents. En effet, sur les quelques jours entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le premier dimanche, et sa crucifixion, les quatre évangélistes sont tous d'accord et font apparaître au détail près les mêmes personnages et les mêmes événements. Souvenez-vous, Jésus sur son âne devant la foule, l'acclamant comme son nouveau roi, le discours sur le mont des Oliviers, la préparation de la Pâque, la scène, la trahison de Judas, la veille à Gethsémané, l'arrestation, le reniement de Pierre, la comparution devant Pilate, l'échange avec Barabbas, la condamnation, puis la crucifixion de Jésus, sa mort et sa mise au tombeau, puis même le tombeau vide. Tout cela, tous ces détails se retrouvent très exactement dans les quatre évangiles. Mais très exactement à partir de ce moment-là, les évangélistes ne sont plus totalement d'accord sur l'évocation des apparitions du Christ ressuscité. Pendant ces quelques jours entre sa résurrection présumée et sa montée au ciel. Certains le font apparaître devant Marie-Madeleine ou d'autres femmes, devant les 11 disciples rassemblés, devant Thomas l'incrédule, ou certains, comme Luc ici, devant de parfaits inconnus. Et on voit bien qu'il se noue là précisément, à la fin de l'histoire de la vie de Jésus, pour chaque évangéliste, la construction de l'après-Jésus-Christ, et avec elle, la capacité des premiers chrétiens à se fédérer autour d'un événement fondateur qui serait la résurrection de Jésus. Comment évoquer cette résurrection ? En esprit, en chair, seulement devant les très proches disciples, ou au contraire, comme choisit Luc dans ce texte, devant les plus éloignés ? Comment en faire une croyance commune ? Quelle hiérarchie d'importance impulser entre l'événement de la résurrection et tout le reste ? Le message de Jésus, les gestes du baptême et de la scène, qui ne sont pas encore des sacrements, etc., etc. Alors pour tenter d'éclaircir tout cela, ce que je vous propose ce matin, c'est de prendre avec moi le chemin de ces deux disciples, et même de vous couler dans la peau de celui qui n'est pas nommé. Vous êtes le compagnon de Cléopas pour quelque temps, pendant toute la semaine qui a précédé, et pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé il y a plus de 2000 ans sur ce chemin d'Emmaüs. Donc revenons au dimanche précédent. Nous sommes avec eux, avec de nombreux disciples de Jésus, et nous sommes venus à sa suite ou à sa rencontre à Jérusalem lorsque la nouvelle de son arrivée s'est répandue. Dans une semaine, nous allons célébrer la Pâque juive. C'est un moment de fête et de rassemblement pour tous les Juifs, un peu comme Noël aujourd'hui pour les chrétiens. Toutes les familles, tous les clans se retrouvent pour quelques jours pour célébrer le souvenir de ce premier repas après la libération du peuple juif d'Égypte. Donc un moment de fête. Et aussi, cette fois-ci, un moment tout à fait exceptionnel, puisque ce Jésus, cet homme dont on parle de plus en plus, arrive à Jérusalem. Et peut-être qu'enfin, nous allons le rencontrer, celui dont on dit qu'il est plus qu'un prophète, un véritable Messie. Celui dont le message semble tellement différent, tellement rempli d'espoir pour tous. Alors, avec notre ami Cléopas, nous assistons à son arrivée sur l'âne, nous assistons à la ferveur toute neuve de cette foule qui l'accueille comme un roi sans royaume et sans richesse. Nous connaissons justement deux de ses disciples proches, Jacques et Jean, deux frères qui sont des vagues cousins, et qui nous ont raconté ce qu'ils font avec ce Jésus depuis 2 ou 3 ans. Comment cet homme prêche la bonté, l'accueil des petits et des pauvres. Comment il guérit les malades. Comment il tient tête aux puissants. Comment il donne à chacun ce qu'il lui faut pour vivre. Comment il parle d'un Dieu puissant et clément à la fois, un Dieu attentif à chacun, à chacune d'entre nous. Et pour que Jacques et Jean, que nous connaissons, aient quitté leur famille et leur maison pour le suivre, il faut bien que cet homme soit vraiment exceptionnel, inouï. Nous avons hâte de l'entendre prêcher au temple, de voir comment les prêtres et les pharisiens vont à leur tour, forcément, le vénérer. Et donc, après son arrivée à Jérusalem, voilà, nous l'accompagnons au temple avec la foule. Nous le voyons entrer au temple, chasser les marchands et libérer l'espace pour enseigner à ceux qui sont là, sans distinction de classe, de sexe, de richesse. Ce qui nous frappe, c'est que ce Jésus s'adresse de la même façon à chacun, femmes et hommes, samaritains et juifs, collecteurs d'impôts ou pestiférés. Nous voyons bien les regards des scribes et des sacrificateurs. Il vient déranger leur tranquillité. Ils n'ont manifestement pas envie de voir un soi-disant prophète prendre trop de pouvoir. Ils lui posent des questions pièges pour lui faire dire des choses qui leur permettraient de le condamner ou de le chasser. Mais ce Jésus est décidément imbattable, vraiment plus fort qu'eux. Il a une réponse imbattable, calme et sereine pour chacune de ses questions. Et chaque jour, il enseigne sereinement. Il répond aux uns et aux autres, à cette foule de plus en plus nombreuse qui vient écouter les paraboles et les sermons. Et surtout, il s'exprime dans un langage simple qui parle à chacun et pas comme les prêtres que nous connaissons. Alors bien sûr, cette semaine passe vite. Entre les journées au temple, les nuits au Mont des Oliviers, l'enseignement d'un monde qui paraît tellement nouveau, dans lequel chacun trouve sa place, tout cela paraît presque trop beau. Bien sûr, nous voyons bien que tout cela dérange de plus en plus les scribes et les principaux responsables du culte. Et effectivement, ils essaient déjà de nous faire changer d'avis, de nous dire que ce Jésus n'est pas aussi puissant que cela, que c'est probablement un imposteur, qu'il faut écarter au plus vite. Mais en fait, on ne voit pas vraiment le danger. Et puis, au moment de célébrer la Pâque, on nous dit que Jésus passe un repas avec ses 12 disciples, au moment où chacun célèbre la Pâque en famille. Et déjà, certains dans la foule disent que ça ne peut pas être vrai, que ce prophète n'est probablement pas si puissant que cela. Les pharisiens ont peut-être raison. Après tout, on pourrait le mettre à l'épreuve pour voir s'il est sauvé par son Dieu. On verrait s'il a raison, s'il est tout puissant. Alors, le vendredi de cette semaine, on nous dit que Jésus a été arrêté par les soldats et qu'il est présenté devant le gouverneur Pilate. Et probablement que, avec Cléopas, nous rejoignons la foule et nous le voyons, pauvre et décharné. Il n'a plus l'air d'un dieu, ni même d'un prophète. C'est un vagabond qui baisse la tête et ne cherche même pas à se défendre contre ses accusations. Où sont-ils ceux qui disaient qu'ils l'accompagneraient jusqu'à la mort? Nos cousins, Jacques et Jean, comme Pierre et les autres, ils ont disparu des radars, à croire qu'ils ne veulent plus être vus avec lui. La foule, retournée contre lui, hurle son dépit, demande sa mort, accordée par un Pilate qui ne voit pas bien ce qu'on lui reproche, mais qui laisse faire. Est-ce que nous avons, nous aussi, hurlé avec la foule? Peut-être bien que nous avons, nous aussi, renié et condamné ce Jésus sur lequel, hier encore, nous fondions tant d'espoir. C'est vrai, après tout, un dieu doit pouvoir résister aux attaques. Sa puissance devrait surpasser facilement la justice humaine, non? Le voilà donc crucifié au milieu de deux brigands. Le voilà qui agonise lentement alors que son dieu ne lui vient même pas en aide. La foule dépitée, désenchantée, et nous-mêmes au milieu de cette foule, nous assistons à la mort d'un prophète qui ne se défend pas, qui accepte son sort en priant. Au pied de la croix, juste deux ou trois personnes, surtout des femmes. La scène nous laisse une impression étrange. Nous qui étions si nombreux à prier avec lui quelques jours auparavant, nous qui fondions tant d'espoir sur ce discours de cet homme qui prêchait la bonté et l'amour, comment a-t-il pu s'effondrer aussi vite, aussi facilement? Le lendemain, toujours pas de nouvelles de nos cousins Jacques et Jean, que nous avons cherchés partout. Ni de Pierre, ni de personne qu'il côtoyait de près. On apprend qu'il a été mis au tombeau ce matin. Jérusalem se réveille, un peu sonnée après ces événements étranges, et la Pâque n'a plus tout à fait le même goût. Dimanche matin, nous nous décidons à quitter la ville, malgré quelques rumeurs qui se répandent. Il paraît que les femmes qui l'entouraient disent que le tombeau est vide, que Jésus leur serait apparu et qu'il serait vivant. On a du mal à y croire. Et triste et dépité, on commence notre trajet à pied vers Emmaüs, à quelques heures de marche de Jérusalem. Nous voilà donc à deux, marchant sur le chemin d'Emmaüs. Déçus, honteux, frustrés, nous prenons la route pour ne pas revenir à Jérusalem. Et après le dépit des événements du week-end, c'est une grande, grande tristesse qui nous envahit. Ce goût amer que nous avons après être montés si haut, d'être retombés si bas. Chacun de nous se laisse aller à ses pensées noires dans un silence renfermé et douloureux. Le rêve d'une vie nouvelle qui s'écroule et nous fait retomber dans la fatalité de la vie d'avant. Et voilà qu'en chemin, un autre marcheur nous rejoint, que nous ne connaissons pas et qui semble ne rien connaître des événements récents. Et après le silence pesant de notre début de marche, avec l'arrivée de ce nouveau compagnon, la conversation s'installe. La parole circule. On se découvre un besoin de parler. Comment ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? Donc bien sûr, on lui explique notre espoir fou, puis notre déception à la mesure de cet espoir. Au fond, on y a cru, mais rien ne change, rien ne changera. Ce Jésus que nous croyions tout-puissant, il est tombé comme les autres, il ne peut rien pour nous. Comment avons-nous pu nous laisser avoir à son discours ? Et là, bizarrement, notre compagnon se fâche. Comment rien ne change ? Mais avez-vous bien entendu ce qu'il disait ? Et vu ce qu'il a fait ? Est-ce que tout cela n'a rien changé déjà dans vos vies ? Souvenez-vous, déjà les prophètes annonçaient sa venue, Moïse et tous ces prophètes expliquaient ce qui allait se passer. Vraiment, mais comment pouvez-vous ne pas le reconnaître ? Avez-vous déjà tout oublié de ces moments passés avec lui ? De cet enseignement patient, de cette invitation à vous réveiller ? Avez-vous donc déjà cessé de le chercher ? Alors, oui, évidemment, nous sommes un peu secoués par cette conversation. Cet homme venu de nulle part qui nous dit qu'on aurait pu réagir autrement. Peut-être que ça fait du chemin dans nos têtes. Puisqu'au moment d'arriver au village et d'entrer dans une auberge, nous l'invitons à rester avec nous et à partager notre repas pour continuer cette discussion qui a sur nous un effet plus que troublant. À la fois, ça nous secoue, ça nous culpabilise aussi un peu. Mais surtout, tout de même, c'est un vague espoir fou qui se réveille en nous et nous fait relever la tête. Est-ce qu'il se pourrait que ces femmes aient raison ? Qu'il se soit passé vraiment quelque chose de surnaturel dans ce tombeau ? Que ce Jésus-Christ soit vraiment ressuscité ? Nous parlons, nous échangeons. La parole circule et irrigue nos pensées, réveille nos sens, remet nos corps debout et nos existences en tension. Dans cette pauvre auberge, lorsque nous partageons le pain, le vin, la parole, eh bien soudain, comme dans le tableau de Rembrandt, c'est un grand soleil qui illumine cette table. C'est une fraternité, un engagement, une nouvelle humanité que nous partageons à deux, à trois, avec ceux et celles qui nous entourent. Que cet homme qui nous accompagne soit Jésus-Christ ou non, qu'il soit visible ou invisible, n'est même plus une question, puisque cette fois, vraiment, nous le reconnaissons, nous l'entendons. Et dans cet éclair sublime qui nous réunit, nous entendons ce que Jésus-Christ nous dit. Les humains sont faillibles et changeants, parfois bons, parfois méchants. Notre Père qui est aux cieux le sait. Et il ne nous en veut pas. Les humains sont capables du meilleur comme du pire. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour nous pousser vers le meilleur, pour nous aider à secouer nos chaînes, à sortir de la culpabilité et poursuivre à notre tour son œuvre parmi les humains. Les humains sont souvent aveugles et sourds, mais lorsqu'ils acceptent de se mettre en chemin, d'exprimer leurs doutes, d'écouter, d'ouvrir leur cœur, alors le ciel s'entr'ouvre. Comme l'exprime le verset de Jean 16 que je vous ai lu en préambule. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » J'arrête là mon récit une minute pour revenir aux évangélistes. Ces quatre rédacteurs, à ce stade de l'histoire, et chacun à des époques légèrement différentes, ont eu besoin d'asseoir la puissance de Jésus-Christ à travers un événement qui leur permette d'amplifier le message des premiers chrétiens. En effet, entre l'an 40 et l'an 100, comme le racontent les Actes des Apôtres, Paul et d'autres ont commencé à enseigner, à voyager pour prêcher le message de leur Dieu. Mais aussi, ils se sont organisés, passant ainsi des premiers chrétiens au christianisme en quelques décennies. Bien sûr, ils se sont appuyés sur la prédication de Jésus, comme lui-même les y a encouragés, en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Bien sûr, ils se sont aussi servis des deux signes de fraternité et de partage également institués par Jésus-Christ, le baptême et la scène. Mais on peut penser qu'ils ont cru utile d'en rajouter un petit peu, avec la dramatisation du destin de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection. Alors qu'au fond, nous aujourd'hui, si nous pouvons avoir des questions légitimes sur sa résurrection, chacun de nous ne peut que constater de la vie éternelle de Jésus-Christ qui s'exerce sur nous tous depuis plus de 2000 ans. Nous sommes, vous et moi, des pèlerins d'Emmaüs. Nous sommes Marie-Madeleine, Thomas, les disciples Pierre, Jean et André. Nous sommes comme eux, comme elles, incrédules et peureux. Nous cherchons souvent, nous trouvons parfois, nous oublions facilement. Nous renonçons également, fatigués ou distraits, volontiers paresseux. Nous n'accordons pas de prix à ces rencontres au bord du chemin. Parfois, nous sommes butés, sourds et aveugles, capables de choisir le pire. Et parfois, nous percevons que c'est bien à nous que Jésus-Christ s'adresse, à nous avec nos pauvres existences de pécheurs, à nous avec nos maigres forces auxquelles il vient ajouter les siennes pour nous réveiller, pour nous relever de nos chemins de tristesse et faire lever sur nous l'aube nouvelle d'une résurrection. Amen.
Thank you.
vous propose de vous lever pour la confession de foi. Je crois que de tout temps, les humains ont levé les yeux vers le ciel pour y chercher apaisement, espérance et joie. Je crois qu'ils ont appelé Dieu, cette lumière qui donnait du sens à leur vie, cette force invisible qui les guidait dans la nuit, qui leur redonnait confiance dans le malheur. Je crois qu'un jour, un homme est venu, un humain comme les autres, qui s'appelait Jésus. Sa vie a été un exemple de bonté, de sagesse, de liberté, d'attention pour chacun, de protection des plus faibles et de liberté pour tous. Je crois qu'il n'avait aucun doute sur l'égalité entre les hommes et les femmes, aucun doute sur l'égalité entre une religion et une autre, entre une origine et une autre. Il est mort sur la croix, mais sa vie, son exemple et son enseignement sont entrés dans l'éternité. Je crois qu'il nous a passé le relais pour poursuivre son œuvre et construire son royaume malgré notre faiblesse, nos doutes, notre paresse. Je crois que Dieu place sa confiance en nous comme nous la plaçons en lui. Je crois à l'amour plus fort que la mort, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et nous chantons le spontané. Alors, j'ai pas mal d'annonces pour ce dimanche. D'abord, comme chaque dimanche, vous savez qu'il y a à l'entrée du temple une collecte de produits pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement, avec une liste de produits privilégiés qui est affichée dans l'entrée. Alors, aujourd'hui dimanche, c'est aussi le déjeuner mensuel des JMJ. Vous connaissez le principe, chacun apporte quelque chose à manger, va chercher sur le marché, et même si vous n'avez rien, vous êtes le bienvenu, bien entendu. Et le repas d'aujourd'hui se fera autour de Éline Ouvry, qui est ici. Ben, vous pouvez vous lever, Éline, voilà. Elle est chargée de mission pour le service animation et communication du DEFAP, et elle présentera donc aux participants de ce déjeuner le DEFAP, ses actions et ses projets. Merci d'avance. Mardi 18, nous avons un conseil presbytéral à 20h. Mercredi 19, la réunion du groupe biblique de 19h30 à 21h. Le groupe biblique lira le discours d'Éliou dans le livre de Job. Jeudi 20, de 19h30 à 21h30, le groupe des jeunes adultes se réunira et pour parler cette fois-ci du métavers, c'est ça ? Voilà. Samedi 22, à 11h au Temple, service d'action de grâce suite au décès de Madame Renaud. Et puis, samedi 22, de 20 à 22h, une pièce de théâtre sera présentée ici dans ce temple. Ça s'appelle Sacré Paul. C'est un voyage avec Paul à partir des Actes des Apôtres avec le dramaturge Jean Cholet. Et il semble que ce soit un très beau spectacle et fort intéressant. Je vous invite donc à venir. Et puis, dimanche prochain, c'est donc... Oui, il y a des petits leaflets que Isabelle a et qu'elle pourra vous montrer aussi à la sortie. Dimanche 23, le culte sera présenté par Dominique Hernandez, qui aujourd'hui prêche à Levallois, puisque vous savez qu'elle mentore un peu la paroisse de Levallois, qui est en vacances pastorales cette année. C'est la raison pour laquelle je la remplace aujourd'hui. Et donc, la semaine prochaine, c'est elle qui sera là. Et il y aura un accueil liturgique de Valentin Yégel pendant la cérémonie. Et puis, je voudrais vous parler... Fabrice, si tu es d'accord pour venir jusqu'à nous malgré ta patte folle, de la visite du musée de Chantilly, cette sortie que nous prévoyons le samedi 13 mai.
Samedi 13 mai au matin, je propose de vous faire découvrir ou redécouvrir le musée Condé du château de Chantilly. Alors Chantilly, ce n'est pas juste une escapade pour profiter de la nature, pour admirer le champ de course. C'est le musée de peinture ancienne le plus riche de France, juste après le Louvre. 800 peintures, dont des chefs-d'œuvre soit de maîtres inconnus, soit de maîtres connus, tels que Raphaël, Botticelli, les Clouets, Philippe de Champaigne, Corot, j'en passe à des meilleurs. En plus, c'est une collection qui a été constituée à la fin du XIXe siècle par le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, et dont l'accrochage est resté inchangé depuis. Donc c'est tout à fait exceptionnel comme mode d'accrochage. On a vraiment l'impression d'être dans une maison, un palais, avec une ambiance, une atmosphère. Tout cela dans un château superbe, entouré d'eau, au milieu d'un parc dessiné par Le Nôtre. Voilà, donc ça promet d'être une très belle sortie. Je la programme le matin pour avoir moins de monde, d'autant plus que ce sera le week-end des plantes, donc il y aura certainement beaucoup de monde l'après-midi. Mais ils seront tous dehors, donc a priori on devrait avoir le château pour nous. Et ensuite on pourrait prolonger par un pique-nique dans les jardins. Voilà ce que je vous propose donc le samedi 13 mai au matin, et je vous incite à vous inscrire. On va publier le petit récapitulatif dans le bulletin de l'amitié, mais dès maintenant, sans attendre, je vous incite à vous inscrire. Alors sur le site
contact à foyer de l'âme.
pasteur@foyerdelame.fr. Voilà.
Et c'est à quelle heure le matin ?
La visite sera à 10h30. Donc on se donnera rendez-vous pour ceux qui viennent par le propre moyen à 10h précises devant la statue du duc d'Aumale, la statue équestre qui est face aux grandes écuries. Et de là, on ira au château qui est à 10 minutes. Moi, ce que je propose, c'est de nous y rendre ensemble en train depuis la gare du Nord. On a un train rapide qui quitte la gare du Nord à 9h07, qui nous met à Chantilly à 9h30. De là, une petite promenade très agréable d'une vingtaine de minutes à travers les bois. Et au bout d'un quart d'heure, tout à coup, on a l'émerveillement de découvrir les grandes écuries et le château à l'orée de la forêt. Voilà.
Merci beaucoup Fabrice et merci d'avance de cette belle visite et de cette belle sortie tous ensemble. Encore une annonce importante. Pour la première fois, nous allons mettre en service ce matin le panier connecté. Donc vous n'avez plus d'excuses même si vous n'avez pas de monnaie. Vous pouvez maintenant donner votre offrande à notre église avec votre carte de crédit. Donc Antoine, tu veux montrer comment ça se passe va le chercher. En fait, c'est un panier sur lequel, très, très rapidement, vous passez votre carte de crédit, vous choisissez le montant, il y a 4 montants possibles, et vous passez votre carte, et voilà, plus rien à faire. Donc, comment on fait ? On le met à la sortie ?
Non, je vais
d'accord,
passer,
ok, pour ceux qui le souhaitent.
Pendant la collecte, ceux qui le souhaitent me font signe, je viendrai vous voir.
Voilà. Et je rappelle à ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux qu'ils peuvent aussi donner leur offrande en un clic sur le site web du foyer de l'âme. C'est quand même magique. Franchement, que demande le peuple ? Laurent, vous avez... Allez-y.
Oui, j'aimerais compléter l'annonce qui a été faite au sujet de la pièce de théâtre avec Jean Cholet, parce que Jean Cholet a été directeur de théâtre, metteur en scène. Vous savez qu'il avait lancé la compagnie de la Marelle. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette compagnie. Mais Jean Cholet a fait des études de théologie et a été pasteur. Et un pasteur tout à fait libéral. Il a été pasteur ici même. J'ai été collègue avec lui. Il a prêché pendant 1 ou 2 ans ici. Un homme tout à fait remarquable. Et pendant qu'il était pasteur au foyer de l'âme, il faisait ses classes théâtrales à la Comédie Française avec Michel Bouquet.
Super. Aussi à noter que le Ciné-Club qui a été annulé la semaine dernière pour cause de manif est reporté. Didier ? Alors, le 27, tu veux monter ? Viens.
Oui, bonjour, jeudi dernier, par prudence, encore que ce ne soit pas été très violent, je crois, enfin bon, nous avons reporté la projection de Un drôle de paroissien. Et donc, jeudi prochain, ce ne sera pas possible, donc ce sera le jeudi 27. Circonstance habituelle, 19h, partage d'un encas, et 19h45, la projection du film de Jean-Pierre Mocky avec Bourvil. Je vous en reparlerai dans 8 jours. Vous avez la fichette dans l'entrée à ce sujet. Voilà.
Alors, y a-t-il d'autres annonces ? Oui, Françoise. Ben, viens, viens, viens. La pause spirituelle, mais pourquoi j'en ai pas parlé ? La pause spirituelle du jeudi, comme d'habitude, de 12h30 à 13h30, qui maintenant réunit un public assez nombreux et qui aura lieu, évidemment, la semaine prochaine. Rien d'autre ? Micheline. Tu peux venir, parce qu'il faut qu'on puisse t'entendre.
Bonjour à tous. Oui, vous savez que la paroisse a un petit groupe d'accueil en relation avec JRS à Toulon et que nous accueillons des personnes qui viennent devant l'OFPRA pour leur demande d'asile ou devant la Cour nationale du droit d'asile. C'était très compliqué cette semaine. Dominique, comme d'habitude, a fait des prodiges et a réussi à mobiliser tout le monde. Mais on a un petit créneau sur lequel on a une incertitude. Dominique accompagnera un frère et une sœur à l'OFPRA lundi matin. Je la rejoins, l'un est convoqué à 9h, l'autre à 14h. Je la rejoins donc à 11h parce qu'elle est elle-même prise à midi. Mais moi-même, j'ai un engagement avec la CIMAD à 19h dans le 18e. Et comme on ne sait jamais à quelle heure les audiences vont terminer, je devrais les quitter à 5h. Et à 5h, ils ne seront peut-être pas sortis de l'audience. Donc, la question est de savoir si éventuellement quelqu'un pourrait les prendre en charge à la sortie de l'audience dont on ne connaît pas l'heure, c'est ça le problème, pour les raccompagner chez Jérôme qui les accueille. Voilà.
Donc contact avec toi,
un petit contact, oui, avec Dominique ou avec
Jaume,
moi,
avec
Dominique Jaume, pardon, ou avec moi pour cette plage horaire un peu incertaine. Avec peut-être, je ne sais pas, nous ne les connaissons pas encore, la possibilité de leur dire qu'ils peuvent aller jusqu'à Nation, parce que c'est direct depuis la station de l'OFPRA, et les récupérer éventuellement à Nation. Voilà. Merci beaucoup pour ceux qui pourront se rendre disponibles.
Plus rien. Je voulais féliciter les deux petits-enfants qui sont là-haut, qui ont été adorables. Et puis en plus, c'était délicieux de les voir tout mignons et silencieux et gentils et très attentifs avec leur maman sur la tribune. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est le plus beau moment du culte. Nous avons besoin de vous, avec ou sans carte de crédit. Allez-y. Et grâce à ça, on fera plein de choses merveilleuses. Et en même temps, nous allons chanter le cantique 212, strophes 1, 2 et 3. Mon Rédempteur est vivant, c'est quand même. Prions. Seigneur, nous sommes en route pour Emmaüs. Nous sommes Marie-Madeleine, Thomas, les disciples Pierre, Jean et André. Nous sommes comme eux, comme elles, incrédules et peureux. Nous cherchons souvent, nous trouvons parfois, nous oublions facilement. Nous renonçons également, fatigués ou distraits, volontiers paresseux. Nous n'accordons pas de prix à